La semaine dernière, nous avons commencé une étude sur les différents miracles que Jésus, de guérison, mais il n'y a pas que des miracles de guérison dans ces miracles-là, les miracles que Jésus a accomplis et que l'apôtre Jean, dans son évangile, nous rapporte. J'avais rappelé que l'apôtre Jean a écrit son évangile beaucoup plus tard que les trois autres et qu'il a sélectionné d'une manière attentive, dans un but précis, les sept miracles qu'il raconte dans son évangile. Et à la fin de son évangile, j'aime bien rappeler cette parole parce qu'elle est très importante. L'apôtre Jean nous dit pourquoi il a raconté de préférence ces miracles-là. Il dit: Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas racontés dans l'évangile, dans ce livre, mais, ajoute-t-il, ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus, est le Christ, le Fils de Dieu, et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. En écrivant cela, l'apôtre Jean, je le rappelle, veut nous dire que l'évangile a un but précis. La lecture de l'évangile doit répondre à ce but. Et le but de la lecture de l'évangile, c'est d'arriver à croire qui est Jésus, à savoir que Jésus est le Christ, c'est-à-dire celui que Dieu a choisi, que Dieu a oint et qui est son Fils, et que nous croyons en lui, parce que si nous croyons en Jésus, si nous vivons jour après jour en croyant en Jésus, en nous appuyant sur son enseignement, en nous appuyant sur ses paroles, en comptant sur lui comme ceux et celles qui l'ont rencontré sur terre ont cru en lui, alors nous aurons la vie. Nous découvrirons que nous vivons une autre vie. Vous savez que les êtres humains ont toutes sortes d'espérances, toutes sortes d'idéaux, qu'ils croient en toutes sortes de choses ou de foi. Certains, parfois, s'attachent à des hommes, et puis lorsque ces hommes meurent, par exemple, tout simplement, alors ils sont désespérés, ils pleurent, ils ne s'en remettent pas, comme on dit. Le chrétien a mis sa foi en Jésus. Il s'appuie sur ce que Jésus a dit et fait, et il se laisse conduire par lui. Cet après-midi, nous avons lu tout à l'heure ce texte dans le chapitre 4. Nous allons nous intéresser à la rencontre d'un homme avec Jésus. Cet homme, nous dit l'Évangile, était, on pourrait dire aujourd'hui, une sorte de haut fonctionnaire. C'est un homme qui travaillait dans le gouvernement du roi à l'époque, dans le nord de la Palestine, d'Israël. Il y avait une province qui s'appelait la Galilée. Et à la tête de cette Galilée, il y avait un gouverneur qui avait récupéré le titre de roi. C'était un membre de la famille du roi Hérode. Et donc ce roi, Hérode Antipas, c'était son nom, un neveu du roi Hérode qui avait essayé de faire mourir Jésus quand il était petit. Donc ce roi régnait sur la Galilée. Et ce roi avait à son service un certain nombre de fonctionnaires, de serviteurs et d'administrateurs. Et donc, très probablement, cet homme, officier royal, d'après certaines traductions, haut fonctionnaire, c'était la même chose, c'est-à-dire un homme qui travaillait au service de ce roi gouverneur. Cet homme est venu un jour voir Jésus. Jésus, nous l'avons lu au début du texte, est revenu à Cana. Vous vous rappelez que Cana était la ville dont nous en avons parlé la semaine dernière, la ville où Jésus avait accompli son premier miracle en Galilée en transformant l'eau lors d'un mariage en vin. Ici, nous allons voir aujourd'hui que Jésus revient dans cette même ville après être allé vers Jérusalem. Et dans cette ville, il va rencontrer un homme. Cet homme, donc, est un haut fonctionnaire qui habite à Capernaum, comme le texte le dit. Capernaum était situé au bord du lac de Galilée et Cana était un peu sur la colline, à une quarantaine de kilomètres de Capernaum. Et alors cet homme, visiblement, avait entendu parler de Jésus. Cet homme vivait un drame. Je ne sais pas s'il peut exister de plus grand drame dans la vie d'un être humain que de voir l'un de ses enfants en train de mourir. Il paraît que pour tous les parents, à n'importe quel âge que ce soit, c'est terrible d'assister ou d'être, bien sûr d'assister parce qu'on est encore vivant, à la mort d'un de ses enfants. Même quand l'enfant a 40 ou 50 ans, les parents en ont peut-être 75, 80, il semble, je dis cela parce que je ne l'ai jamais vécu bien sûr, mais il semble que ce soit toujours quelque chose de très difficile à vivre que de voir l'un de ses enfants mourir. Et cet homme vivait cette expérience particulièrement douloureuse, comme je disais, peut-être l'expérience la plus dure qu'un être humain puisse vivre. Cet homme qui vivait cette expérience douloureuse a entendu parler de Jésus. Et je crois que c'est là la première leçon de cette histoire. Pourquoi cet homme avait entendu parler de Jésus ? Tout simplement parce que quelqu'un en avait parlé. Très souvent, nous découvrons que les gens qui ont découvert Jésus, qui ont découvert la foi en Jésus et tous les bénéfices de la foi en Jésus, ce sont des gens qui ont tout simplement entendu parler de Jésus parce que quelqu'un leur a parlé. Quelquefois, je dis, lorsque je prêche, que je leur dis cet après-midi, que si je suis là cet après-midi, c'est parce que je suis chrétien, bien sûr, parce que je suis pasteur aussi, mais avant d'être pasteur, je suis devenu chrétien. On devient plutôt chrétien, puis après pasteur, et non pas l'inverse. Et si je suis chrétien, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a parlé de l'Évangile à mes parents, qui vivaient alors une situation dramatique. Ils allaient se séparer. Et comme cette personne leur a rendu témoignage de Jésus, ils ont décidé d'aller entendre parler de Jésus dans une église, comme ici, et en l'entendant, mon père d'abord, ma mère ensuite, ils ont décidé de croire en Jésus. Il y a toujours, presque toujours, pour qu'une personne découvre, rencontre Jésus comme cet homme l'a fait, il y a toujours quelqu'un qui a parlé de Jésus. Il est important de parler de Jésus quand on le connaît, parce que ceux qui pourront entendre parler de Jésus auront l'occasion, comme cet homme, de voir leur vie changer. Alors cet homme est venu voir Jésus. Il a parcouru près de 40 kilomètres à pied. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Capernaum au bord du lac à Cana, dans la colline, dans les collines, dans les montagnes, non seulement c'était 40 kilomètres, mais 40 kilomètres qui avaient tendance à monter. Mais vous savez, quand on vit une situation dramatique, quand on a un grand besoin, je dirais même un besoin désespéré, on est prêt à tout. L'homme a cette force en lui-même, l'être humain a cette force en lui-même qui sait, dans les moments les plus difficiles, le pousser vers l'avant. Et cet homme a fait ses 40 kilomètres à pied pour venir voir Jésus. Et lorsqu'il est venu voir Jésus, il lui a expliqué que son fils était gravement malade. Et nous avons lu que Jésus a eu une réponse assez difficile, peut-être. Pour nous, ça semble, à la limite, peut-être un peu dur de répondre à quelqu'un qui vient parce que son fils est gravement malade. Jésus dit, si vous ne voyez pas des signes et des miracles, vous ne croirez pas. En quelque sorte, Jésus donne l'impression de reprocher à cet homme, puisque c'est à cet homme qu'il dit cela, mais il le dit aussi pour ceux qui sont autour d'eux. Il dit à cet homme, vous voulez toujours voir des miracles, et sinon vous ne croirez pas. Vous savez que Jésus n'est pas venu seulement pour accomplir des miracles. Bien sûr, le miracle fait partie des capacités de Jésus. Jésus a dit qu'il était venu d'abord pour chercher et pour sauver ceux qui sont perdus. C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Jean, il est dit que Jésus est venu pour que ceux qui croient en lui aient la vie et une vie en abondance. Donc Jésus est venu non seulement pour chercher, sauver ceux qui sont perdus, pour les libérer de ce qui fait qu'ils sont perdus, et il est venu également pour que ceux qui croient en lui découvrent la vraie vie, la vie que Dieu a voulu pour nous. La Bible dit, en effet, vous le savez, que Dieu nous a créés et qu'il nous a donné le souffle de vie. Mais toute la Bible nous explique quel est le genre de vie que Dieu veut que nous vivions pour vraiment accomplir son plan pour lui. Dieu nous a créés pour que nous puissions manifester sa gloire, c'est-à-dire pour que nous puissions démontrer devant les autres, en vivant simplement, comme Jésus nous le demande, que Dieu aime l'homme, que Dieu veut pour l'homme une véritable vie, et non pas une vie comme le vivent trop d'hommes aujourd'hui sur terre, trop d'êtres humains, une vie de difficulté, une vie de souffrance, une vie de maladie, une vie de désespoir, une vie de détresse qui en pousse certains même à sauter la vie. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Jésus est venu pour ceux qui croient en lui, donc ceux qui entendent parler de lui, et qui croient ce que dit la Bible sur lui, est la vie, et une vie de bonne qualité, une vie abondante. Dans la première lettre de Jean, de l'apôtre Jean, il est dit aussi que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Eh bien, cet après-midi-là, ce jour-là, ce matin-là, puisqu'il est dit que c'est à la septième heure, c'est-à-dire à 13 heures, à 1 heure de l'après-midi, que Jésus a dit à cet homme, tu peux aller, ton fils est vivant, ton fils va vivre, ton fils est guéri. En cette fin de matinée-là, quand cet homme est venu vers Jésus, Jésus lui a donc répondu, si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croyez pas. Jésus, en effet, a dit cela parce qu'il venait de Samarie. Dans le chapitre 4, les 40 et quelques versets qui précèdent cette histoire, Jésus s'est arrêté dans un village de Samarie. Il a rencontré là une femme qui avait une vie pas très morale, une femme qui s'était déjà mariée 5 fois et qui maintenant avait déjà quitté son 5e mari et qui vivait avec un 6e homme. Cette fois-là, elle avait décidé de ne pas se marier. Peut-être qu'elle se disait, au moins si je ne me marie pas, je ne divorcerai pas une 6e fois. Vous savez, quand on en arrive là, on essaye de limiter les dégâts, plus qu'autre chose. Elle ne se faisait sans doute pas trop d'illusions. Alors elle disait, bon, je vais vivre avec un 6e et puis on verra bien ce qui se passera. Et c'est à ce moment-là que Jésus l'a rencontrée et que Jésus lui a parlé de Dieu et qu'il lui a dit combien Dieu connaissait tout de sa vie et qu'il pouvait transformer sa vie. Alors Jésus, non seulement cette femme a accepté de croire en Jésus, mais le texte nous dit que, le chapitre 4 nous dit que tout le village ensuite a découvert Jésus. Tout le village a compris que Jésus était le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que cette femme, lorsqu'elle a vu que Jésus connaissait tout d'elle et qu'il voulait la transformer, est allée rendre témoignage à son village. Et dans son village, il est dit que tout le monde a cru. Non seulement parce que cette femme leur avait parlé, mais après les habitants du village ont dit « Nous croyons non seulement parce que tu nous as parlé de lui, mais parce que nous l'avons entendu et nous savons maintenant qu'il est Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. » Jésus avait donc, dans ce village, transformé des vies. Et c'est le but premier de la venue de Jésus, c'est de transformer des vies. Jésus veut toujours nous donner une vie que l'Évangile appelle une vie abondante, c'est-à-dire une vie que nous vivons d'abord dans la présence de Dieu, et donc une vie qui est riche, une vie dans laquelle nous découvrons Dieu jour après jour. Alors maintenant, il se trouve là, à Cana, il rencontre cet homme, et on lui demande encore de faire un miracle. Vous allez me dire, mais Jésus semblait quand même un peu dur, parce que cet homme vivait un grand drame, et peut-être que Jésus aurait dû être plus gentil avec lui, et lui dire tout de suite, tu veux que j'aille chez toi, eh bien, allons-y. C'est à 40 km, c'est pas grave. 40 km pour un jeune homme de 30 ans, ce n'est rien du tout, n'est-ce pas ? On n'est pas habitué aujourd'hui à faire 40 km à pied, mais bon, à l'époque, tout le monde marchait. Il n'y avait pas d'automobile ou de moyens de transport beaucoup plus rapides. Seuls les plus riches voyageaient à dos d'âne ou dans des carrosses, dans des chariots, mais le peuple moyen marchait à pied. On était habitué à marcher à pied. Alors, Jésus aurait pu dire, je vais venir avec toi. Mais voyez-vous, Jésus ne veut pas que nous vivions dans ce qu'on appelle aujourd'hui d'un grand mot, l'assistanat. Jésus veut que nous ayons la foi. Jésus veut que nous vivions, comme dit la Bible, par la foi, que nous lui fassions confiance. Pour Jésus, 40 kilomètres, ce n'est rien. Bien sûr qu'il peut les faire à pied. Il en a fait beaucoup plus que ça pendant son ministère public. Mais Jésus veut que nous fassions confiance à sa parole. C'est pourquoi, au lieu d'accompagner cet homme jusque chez lui, comme il l'a fait peut-être avec d'autres, comme il l'a fait par exemple avec un jour un chef de synagogue qui s'appelait Jaïrus, qui avait sa fille malade à mourir aussi, eh bien, il est allé jusque chez lui. Mais ce jour-là, il a voulu, en quelque sorte, mettre la foi de cet homme à l'épreuve. Il a utilisé une autre méthode, une méthode encore plus simple. À un certain moment de leur conversation, Jésus l'a regardé, ou il a dû le regarder avec un regard plein d'amour, plein de compréhension, plein de compassion. Mais il lui a dit, avec conviction, « Je n'ai pas besoin de retourner chez toi. Je n'ai pas besoin d'aller chez toi. Tu n'as qu'à rentrer. Moi, je te donne ma parole. Quand tu arriveras chez toi, ton fils sera guéri. » C'est le sens de ce que Jésus dit. « Va, ton fils vit. Ton fils va vivre. Tu n'as plus à t'inquiéter. Je te donne ma parole, moi Jésus. » C'est la parole de Dieu qui te dit « Rentre. » Et fais confiance à Dieu. Vous savez, quand on réfléchit à cette histoire, qu'aurions-nous fait à la place de cet homme si nous avions été à sa place? Vous imaginez, vous avez un enfant. Alors pour certains, il faut déjà imaginer pas mal. Certains ne sont pas mariés, n'ont pas d'enfants. Mais si vous êtes, il y a quelqu'un qui est marié, qui a un enfant parmi nous? Oui? Ah, il y a quand même un. Quand même. Bon. Alors les autres, vous pouvez imaginer quand même, vous savez ce que c'est qu'un enfant. Vous savez si vous êtes homme ce que c'est qu'une femme, une femme si vous êtes ce que c'est qu'un homme, vous savez ce que c'est que le mariage quand même quelque part. Bon. Et vous imaginez cet homme, il a quitté son foyer il y a peut-être une journée, 40 km ça ne se fait pas en 2 heures, hein, même les coureurs à pied les plus rapides ne le font pas en 2 heures. 40 km, oui, les coureurs de marathon le font en 2 heures environ. Mais cet homme-là n'était pas un coureur de marathon visiblement. Cet homme-là avait dû mettre quelques 5, 6, 7, 8 heures pour parcourir ces 40 kilomètres, peut-être même qu'il s'était arrêté dans une auberge ou un hôtel, une sorte d'auberge pour dormir la nuit. Et puis après, il était reparti le lendemain matin. Toujours est-il qu'il avait quitté son foyer, son fils était couché sur son lit avec une forte fièvre et tout laissait à penser qu'il était en train de mourir. Alors cet homme est parti. Et là maintenant, il est devant Jésus. Peut-être le lendemain, en fin de matinée, Jésus le regarde et lui dit « Tu peux rentrer, c'est réglé. Ton fils n'est pas mort et il va vivre. Rentre chez toi tranquille. Qu'auriez-vous fait ?» La dernière fois que vous avez vu votre enfant, c'était hier ou c'était peut-être ce matin, très tôt, il était aux portes de la mort. C'est là que nous voyons exactement ce qu'est la foi. La foi, ce n'est pas le simple fait de venir à l'église, ce n'est pas le simple fait de lire la Bible peut-être tous les jours, ce n'est pas le fait simplement de prier Dieu, tout cela est important. Mais tout cela ne constitue pas la foi. Tout cela doit être naturellement le fruit de la foi. Nous venons à l'église parce que nous croyons, nous prions parce que nous croyons que Dieu nous entend et nous voit. Nous lisons la Bible parce que dans la Bible, c'est Dieu qui parle et qui se révèle tel qu'il est. Cet homme a dû mettre sa confiance dans la parole que Jésus avait dite. Il a dû faire, excusez-moi l'expression, comme si c'était vrai. Parce qu'en fait, la foi, c'est cela. Je vais faire maintenant comme si c'était vrai. Je vais partir du principe que puisque Jésus dit que mon fils vit, même si la dernière image que j'ai dans la tête, c'est tout le contraire, il est en train de mourir. Pour nous les hommes, il est en train de mourir. Mais je vais y aller. Je vais y aller. Je vais faire confiance à Jésus. Parce qu'après tout, si Jésus s'engage, et il s'engage dans sa parole, et si moi je le crois de tout mon cœur, ce n'est plus mon problème. Bien sûr, c'est mon fils, se disait l'homme. Mais puisque Jésus, dont on m'a tant parlé, dont on m'a dit tellement de bien, puisque Jésus, qui a déjà fait des miracles, qui a déjà guéri des malades. Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 2, que Jésus à Jérusalem a fait des miracles. Il y a quelque temps, cet homme se rappelait que Jésus, dans un mariage, dans cette même ville de Cana, avait fait une chose extraordinaire. Il avait transformé de l'eau en vin, comme nous le voyons la semaine dernière. Et cet homme a dû se dire, si Jésus me dit que je peux rentrer chez moi, que mon fils est vivant, qu'il va continuer à vivre, qu'il ne mourra pas de cette fièvre, alors je vais lui faire confiance. Et il est parti. Peut-être que pendant les premiers kilomètres, et vous savez, quand vous avez 40 kilomètres à faire à pied, on fait cela à peu près en 8, 9, 10 heures, en marchant correctement, sans courir et sans traîner. Vous imaginez ce qu'un homme comme celui-là se dit pendant ses 40 kilomètres, pendant ses 8 à 10 heures. Il est sans doute seul, il redescend la route, alors ça va un peu mieux parce que ça descend, mais quand on est seul, on pense. Il est difficile de ne pas penser. Il a dû penser, par moment peut-être la tentation lui est venue, et si quand je rentre à la maison, mon fils a toujours la fièvre, s'il n'est pas encore mort, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Tu reviens? Mais tu avais dit que tu étais parti chercher Jésus. Pourquoi il n'est pas avec toi? Et cet homme peut-être aurait demandé à sa femme, comment va le petit? Comme quand tu l'as quitté. Cet homme a peut-être laissé ses pensées là venir dans sa tête. Mais la Bible nous montre qu'il est parti, qu'il a continué à marcher, et je pense qu'il avait plutôt la foi, puisque son fils a été guéri. Cela veut dire que cet homme a lutté peut-être contre quelques pensées, parce que nul doute qu'il a été tenté de croire, ou plutôt de douter. L'être humain est fait comme cela. Quand il doit croire, il est tenté de douter. Et la foi est presque un combat quotidien. Il est aussi facile de douter que de croire. Mais c'est un choix. C'est un choix de notre volonté. Nous pouvons croire ou ne pas croire. On peut faire confiance à Jésus, mais on peut aussi douter. Se dire, et si ce n'était pas vrai? Rappelez-vous que le premier récit de la Bible, où les êtres humains sont impliqués, c'est le récit de la tentation d'Adam et Ève. Or, quel a été le problème d'Adam et Ève? Dieu leur avait dit, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, sauf de celui-là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sauf celui-là. Tous les autres, vous pouvez en manger. Or, que s'est-il passé? C'était l'arbre de la vie. Or, que s'est-il passé? À un certain moment, quelqu'un est venu leur dire, Dieu a-t-il vraiment dit ça? Il ne leur a pas dit, vous avez mal compris, Dieu n'a jamais dit ça. Non, il a simplement dit, il est parti du principe que Dieu avait dit quelque chose, mais il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Est-ce que Dieu a vraiment voulu dire cela? Vous n'avez pas le droit de toucher à cet arbre-là. Et alors, la femme, je ne veux pas faire une histoire entre hommes et femmes, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est la femme qui a péché la première. Et moi, j'ai remarqué un jour, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas remarqué au début, puis un jour, en relisant le texte de plus près, je me suis rendu compte que lorsque la femme accepte de manger le fruit, il est dit, elle l'a tendu à son mari, et vous savez ce qui est écrit juste après? Elle l'a tendu à son mari qui était à côté d'elle. Alors, qui est le plus coupable? La femme ou le mari qui était à côté d'elle et qui n'a rien dit, qui n'est même pas intervenu. Parce que d'après la Bible, toujours, c'est l'homme qui avait reçu l'ordre. Il ne faut pas manger de ce fruit. Alors soit il ne l'avait pas dit à sa femme, ce dont je doute, parce que ça la concernait quand même, soit lorsqu'il a vu sa femme accepter de prendre le fruit, tout laisse à penser qu'il avait assisté à toute la conversation, entre Satan et sa femme, entre le serpent et sa femme. Lorsqu'il a vu sa femme accepter de le goûter, peut-être qu'il s'est dit, on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça ne fait rien de mal, comme dit Satan. Et il était à côté, il aurait pu dire, non, non, Ève, ne touche pas. Dieu m'a dit que. Mais Adam n'a rien fait. La première tentation, donc je dis ça pour qu'il n'y ait pas de problème entre homme et femme, la femme a peut-être mangé la première, mais l'homme était juste à côté, et quand elle lui a tendu le fruit, il a mangé aussi. Donc les deux sont aussi coupables, ni l'un plus que l'autre. Et je pense que si Adam avait beaucoup insisté, il aurait très bien pu prendre le fruit et dire à sa femme, ne touche jamais ça. Jamais. Mais il ne l'a pas fait. Donc tous coupables, tous les deux en tout cas. Pour revenir à notre histoire, c'est la remise en cause de la parole de Dieu qui est le problème. Parce que Satan a dit, Dieu, est-ce que c'est vrai que Dieu a vraiment dit ça? Et à partir de là, le doute s'installe. Notre homme a peut-être été tenté de douter de la parole de Jésus. Mais je suis convaincu qu'il n'a pas douté longtemps, qu'il a repoussé le doute, parce que s'il avait commencé à douter, nul doute qu'il serait revenu en arrière. Dire à Jésus, Seigneur, tu sais, j'ai pensé à ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais je préférais que tu viennes avec moi. C'est quand même plus sûr. Au moins ma femme te verra, au moins l'enfant te verra. Ça nous fera du bien que tu sois là. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, moi j'aurais bien aimé vivre quand Jésus était là en chair et en os. Mais ça ne change rien. Il y a eu des gens qui l'ont vu en chair et en os, et ce n'est pas pour cela qu'ils ont cru davantage. Comme disait le riche, lorsqu'il était, vous savez, dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, lorsque le riche est dans l'enfer, il dit à Jésus, il dit, dis-lui, voit Abraham, il dit, envoie-leur Lazare pour qu'il croie. Abraham répond, même si on leur envoie quelqu'un qui est ressuscité des morts, ils ne croiront pas. Ils avaient l'occasion de croire. Cet homme a peut-être été tenté de douter. Et s'il avait vraiment douté, il aurait pu revenir en arrière et insister auprès de Jésus, Seigneur, tu sais, je t'avais demandé de venir, je crois que c'est quand même mieux si tu viens. Mais Jésus veut que nous lui fassions confiance. Jésus veut que nous sachions qu'il peut guérir à distance, même sans être visible, puisqu'il est partout. Alors cet homme a continué sa route, il a sans doute repoussé les éventuels doutes, il a marché vers chez lui, et à un certain moment, il a aperçu au loin ses serviteurs qui arrivaient. Je disais un jour, vous savez, quand on est au loin, on ne reconnaît pas forcément les gens de très loin. Si on a une bonne vue, même si on a une bonne vue, on ne les reconnaît pas très loin. Mais parfois, on reconnaît les gens de loin à leur démarche, à leur manière de... Vous savez, chacun de nous a une allure particulière, une démarche. Il m'arrive parce que ma vue baisse un peu avec l'âge, puis avec un petit problème de cataracte. Et j'ai remarqué que maintenant, je reconnais parfois les gens de loin, même si je ne reconnais pas leur visage ou leurs vêtements, parce qu'on change de vêtements régulièrement. Je les reconnais à leur manière de marcher. Il m'est arrivé un jour de reconnaître comme ça quelqu'un de loin. Je lui dis, tiens, on dirait un tel. Et quand la personne s'est approchée, j'ai pu la voir de mes yeux vraiment, c'était un tel, c'était lui, ou c'était elle. Pourquoi ? Parce que je reconnaissais la démarche. Alors j'imagine que notre homme arrivait bientôt en direction de chez lui, et il a vu ces trois hommes, ces deux, trois, quatre hommes, ses serviteurs, il est dit, qui arrivaient au-devant de lui. Il ne voyait pas leur visage, il ne voyait pas s'ils étaient heureux ou au contraire très tristes. Il a pu se demander encore une dernière fois, mais est-ce qu'ils viennent au-devant de moi pour me préparer à la mauvaise nouvelle, ou est-ce qu'ils viennent devant moi, au-devant de moi pour me dire, ça y est, il est guéri. Et bien sûr, quand ces hommes se sont approchés de lui, il les a reconnus, et il a reconnu leur visage, et il a vu sur leur visage une expression de joie. Il a compris qu'il avait bien fait de croire la parole de Jésus. La foi, c'est cela. Prendre la parole de Jésus au mot. Lorsque Jésus dit une chose, lorsqu'il fait une promesse, prendre la décision, parce que c'est toujours une décision, de croire ce qu'il dit. Et que ce qu'il dit va se vérifier. Parfois, comme dit le prophète Habacuc, la promesse est en chemin. Elle tarde à se manifester. Mais elle n'en reste pas moins la promesse de Dieu. Et nous pouvons nous appuyer sur elle. Cet homme s'est appuyé sur la promesse de Dieu, et lorsqu'il a vu ses serviteurs en face de lui, ils lui ont dit, ça y est, il vit. Il est sorti de la difficulté. La fièvre l'a quitté. Quand cela ? A dit le père. Hier. À quelle heure ? Et peut-être que ses serviteurs se sont dit, mais quelle importance ! Mais c'était important. L'homme a dit, à quelle heure ? Ils lui ont dit, hier, vers 13 heures. Et quand cet homme a réfléchi un peu, il s'est souvenu qu'il était à peu près 13 heures quand Jésus lui a dit, vas-y, ton fils est vivant, ton fils est guéri. Et en réalisant que la parole de Jésus franchit les distances, elle est la parole de Jésus. Quel que soit l'endroit où nous sommes, même si nous prions pour quelque chose qui arrive à 40 ou à 100 ou à 1000 ou à 5000 kilomètres, si c'est la parole de Jésus, elle agit puissamment. Cet homme, nous est-il dit, a cru, et non seulement il a cru, mais son témoignage, ce qu'il a dit sur le fait qu'il était 13 heures quand Jésus l'a rencontré et lui a dit « Ton fils est guéri », cet homme l'a cru et il nous est dit « Alors, lui et toute sa famille crurent en Jésus ». Ce n'était pas tout à fait la foi de la veille. La veille, il avait cru suffisamment pour partir en toute confiance. Mais le lendemain, il a réalisé que non seulement Jésus lui a dit cela, mais au moment où Jésus a parlé, la chose s'est accomplie. Vous savez, la Bible dit que la terre a été formée, créée par la parole de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière a été. Dieu a dit, par exemple, que les eaux soient séparées de la terre, et cela s'est fait aussitôt. La Bible entière est faite de paroles et de promesses que Dieu nous invite à croire. Parce que c'est sa parole, et parce que Dieu est vie, et parce que sa parole est vivante. Alors que Dieu nous aide à croire, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous vivons, quels que soient les besoins que nous avons, quelles que soient les attentes que nous avons en nous, que Dieu nous aide à croire que ses promesses, sa parole, qui est la Bible, et en particulier l'Évangile, que sa parole est vivante et qu'elle peut créer la vie partout où elle est prononcée et partout où elle est crue. Que Dieu vous bénisse.